France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 la ministre des Solidarités et de la Santé. Dialoguer avec elle, les sujets sont nombreux et nous concernent tous. 01 45 24 7000, réseaux sociaux, applications France Inter, vous connaissez les différents moyens. Agnès Buzyn, bonjour.
Bonjour.
Le projet de loi sur la transformation du système de santé est à l'ordre du jour du Conseil des ministres demain. Ce projet de loi devrait être examiné dans l'hémicycle à partir du 19 mars, avec l'espoir d'un vote définitif avant la rentrée prochaine, selon le rapporteur. Voilà pour le calendrier. Sur le fond, dites-nous en quelques mots, Madame la Ministre, en quoi cette loi nous permettra-t-elle d'être mieux soignés, nous Français ? J'imagine que c'est le but.
Absolument. Le but, c'est de faire en sorte que chaque Français trouve un médecin et trouve une offre de soins de proximité avec des professionnels de santé multiples, je pense aux infirmières, aux pharmaciens, aux sages-femmes, engagés autour des problèmes de santé des Français, proches de leur domicile, avec des hôpitaux de proximité rénovés. Je m'étais engagée pour qu'aucun hôpital ne ferme. Et cette loi, c'est une partie, évidemment, du projet. C'est simplement ce qui a besoin d'un texte de loi. Mais une autre partie du projet se négocie aujourd'hui entre les professionnels et l'assurance maladie. Et puis d'autres parties du projet ont également été votées lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc en réalité, il y a plusieurs briques. La loi santé n'est qu'une brique et elle va traiter de la fin du numerus clausus pour augmenter le nombre de médecins formés et diversifier les profils des médecins. Et puis, elle va traiter des hôpitaux de proximité qui sont aujourd'hui une urgence pour notre pays afin de les restructurer et qu'ils répondent à des missions bien spécifiques.
Alors, sur le papier, vous expliquez clairement qu'on sera mieux soigné près de chez nous. Maintenant, comment vous expliquez que pourquoi que plusieurs associations, notamment les associations de maires de France, de régions de France, de départements de France, vous accusent de ne pas avoir suffisamment discuté et concerté en amont ? Et puis, plus largement, on est en plein grand débat sur les fractures territoriales. Est-ce que c'est le moment de présenter une loi alors que le grand débat se poursuit et que certaines des choses qui vont remonter du grand débat vont impacter sur votre loi ?
Alors, le grand débat pointe exactement les difficultés et propose exactement ce que nous proposons. En réalité, ce qui émerge du grand débat aujourd'hui pointe exactement les orientations que nous prenons. Et puis, cette loi, elle a été concertée depuis un an. Ça fait un an que les travaux ont commencé. Tous les élus faisaient partie des groupes de travail. En réalité, il faut lire cette tribune, je dirais, en négatif. Les grands élus sont d'accord avec les orientations. Ils trouvent que la loi est bien. C'est ce qu'ils me disent dans le privé. Et bon, ils ont besoin évidemment d'une posture un peu. Je les reçois ce soir, mais dire que nous n'avons pas concerté, je pense que c'est difficile vu leur présence dans tous les groupes de travail pendant la concertation. Et puis un certain nombre de mesures, comme la réforme des études de santé ou les hôpitaux de proximité, vont faire l'objet d'ordonnances, c'est-à-dire que nous commençons en fait la concertation sur ces deux sujets-là, de façon à aboutir à un projet finalisé à l'été.
C'est une de leurs craintes, vos ordonnances en fait. Le fait que vous tranchiez, que vous sortiez du flou par ordonnance. Puisque par ordonnance, par définition, il n'y a pas tellement de concertation et en tout cas de discussion parlementaire.
C'est exactement l'inverse. L'ordonnance, c'est laisser 3 mois supplémentaires après le texte de loi pour concerter et aboutir à un projet commun. Et je suis absolument certaine que nous sommes d'accord en fait avec les grands élus. Je les vois suffisamment souvent pour savoir que en fait, ils portent cette réforme, en tous les cas, ces grandes orientations.
Mais tout de même, Agnès Buzyn, pour prolonger la question de Léa, dans le grand débat, la fracture territoriale est un thème fort. C'est peut-être même le premier. La disparition des services publics ou leur éloignement des citoyens qui ne vivent pas dans les grandes villes, ça aussi c'est un thème extrêmement fort. En supprimant des prérogatives aux hôpitaux de proximité, est-ce que de fait vous n'éloignez pas encore plus les gens de la porte d'un hôpital en créant de fait une médecine à deux vitesses selon que vous aurez la chance de vivre en ville ou de vivre éloigné ?
En fait, c'est aujourd'hui que nous avons une médecine à deux vitesses. En réalité, aujourd'hui nous avons une médecine à deux vitesses parce que en proximité.
En quoi la réforme va-t-elle régler ce problème ?
Eh bien, d'abord, nous maintenons une porte d'entrée en proximité. Ce va être les hôpitaux de proximité qui vont persister et être réinvestis financièrement pour leur donner les moyens de travailler sur des missions très utiles en proximité. Je pense à la gériatrie, par exemple. Je pense à des soins de rééducation. Je pense à la médecine polyvalente. C'est-à-dire la médecine générale, si
mais
vous voulez.
Mais donc, ce sont des maisons de santé, en fait.
Non, il y aura
pas des
de
hôpitaux.
La radiologie, il y aura de la biologie, il y aura peut-être des équipes mobiles. Nous allons discuter.
Pardon, vous précisez, il y aura de la radiologie, et des laboratoires.
Il y aura un plateau technique pour être hôpital de proximité.
Parce que c'est une des questions.
Bien sûr, et tout cela va justement faire partie de la concertation que nous débutons dès que les ordonnances seront votées. Ensuite, nous faisons de la gradation des soins, c'est-à-dire que nous assurons à tous les Français une médecine de qualité aujourd'hui, et nous le savons tous, quand vous êtes soigné dans certains hôpitaux, vous n'avez pas exactement la même qualité de médecine que lorsque justement vous êtes en ville à côté d'un grand centre hospitalier
mais
régional.
Mais de fait, certains devront prendre leur voiture pour aller plus loin dans un grand hôpital.
Pour avoir plus de chances de guérir. En réalité, c'est ça la vérité. C'est que je veux assurer à tous les Français les mêmes chances d'être pris en charge par des plateaux techniques de qualité et des personnels de qualité.
Combien d'hôpitaux de proximité, pardon Léa?
Nous en prévoyons entre 500 et 600. C'est un maillage territorial complet.
Est-ce qu'on pourra accoucher dans ces hôpitaux de proximité?
Aujourd'hui, les maternités ne sont pas prévues dans ces hôpitaux de proximité. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer des maternités. Hein. C'est ceux qui postuleront pour un label hôpital de proximité, ce sont des hôpitaux qui, d'ores et déjà aujourd'hui, n'ont pas de maternité. Et puis, sur les maternités, nous avons à faire face un problème qui est que certaines maternités assurent très très peu d'accouchements, moins d'un par jour, et que donc les professionnels, les obstétriciens ou les sages-femmes ne veulent pas aller travailler dans ces maternités qui, pour certaines, ne fonctionnent qu'avec des intérimaires qui parfois ne connaissent même pas les procédures d'urgence. Donc c'est là où il y a une médecine à deux vitesses, parce que en réalité, la qualité et la sécurité des soins n'est pas toujours assurée dans ces maternités. Et quelque part, les élus qui ne souhaitent pas la fermeture de la maternité, ne prennent pas, eux, la responsabilité s'il y a un accident. En réalité, c'est la ministre qui prend cette responsabilité.
Oui, mais lors du premier grand débat d'Emmanuel Macron, on se souvient que le président avait été interpellé avec émotion par le maire de Bernay, qui lui avait dit « s'il vous plaît, ne fermez pas ma maternité ». C'est aussi ce que dit le maire de Creil. Depuis 10 jours, on ne peut plus accoucher à Creil. Il y avait une maternité qui faisait à peu près 1600 accouchements par an. Pourquoi est-ce que vous entérinez le fait que ceux qui vivent en ville peuvent accoucher à 10 minutes de chez eux, alors que ceux qui vivent soit à Creil, soit dans des zones plus rurales, doivent faire 45 minutes, voire une heure de voiture pour aller accoucher?
Alors, d'abord, je vais dire que je comprends l'inquiétude des élus lorsqu'une maternité est transformée en centre de périnatalité. Je rappelle que les maternités ne sont pas fermées. On assure tout le suivi de grossesse et on reprend les femmes après leur accouchement pour recréer le lien mère-enfant. Et ce sont des centres de périnatalité de très bonne qualité. Il y a des psychologues, il y a de l'hypnose, il y a des accompagnements des femmes de très grande qualité.
On ne peut plus accoucher.
Et l'acte d'accouchement est fait dans une maternité très sécurisée avec un plateau technique, des spécialistes, des pédiatres, de la néonatologie. Donc ces centres de périnatalité, ils persistent à la place des maternités. Et c'est de la très bonne qualité. Donc, je comprends l'inquiétude des parents et je comprends l'inquiétude des élus. En réalité, ce que nous offrons aujourd'hui, c'est une meilleure qualité de service. Et nous faisons en sorte que le transport et l'hébergement des femmes soient totalement réglés en amont. C'est-à-dire qu'elles n'aient pas cette inquiétude de trouver une ambulance ou une voiture pour les emmener.
Mais par qui? Puisque le maire de Creil dit que 40% des habitants de sa ville n'ont pas de voiture. Alors, et qu'il n'y a pas de transport entre Creil et Senlis, là où les femmes doivent accoucher.
Donc, tout cela s'organise par les ARS.
Oui, mais là, c'est un exemple concret, Madame la Ministre.
À Creil, c'est une problématique tout à fait différente. Creil, c'est un choix. C'est un seul hôpital qui s'appelle Creil-Senlis. Et l'hôpital a décidé rationaliser ses services. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 2 services de cancérologie, 2 maternités, il a souhaité que la maternité aille à Senlis et que la cancérologie aille à Creil. Donc c'est un choix qui a été fait par les professionnels eux-mêmes, qui a été décidé par la communauté professionnelle de ces deux hôpitaux.
Qui est contesté par beaucoup de médecins, d'infirmiers et de
et que nous avons entériné parce qu'en fait, il permet à toutes les femmes qui aujourd'hui accouchent à Creil d'être suivies dans une maternité de niveau 3 avec un service de réanimation néonatale donc de très bonne qualité. Et ce qui compte effectivement, c'est de vérifier pour chaque femme que le transport lui soit assuré. C'est ce que nous faisons à Die par exemple, quand nous avons transformé la maternité de Die en centre de périnatalité. Nous avons organiser des transports vers Valence ainsi que des hébergements en anticipation de l'accouchement pour les femmes qui avaient un accouchement programmé par exemple. Donc tout cela s'organise. Je rappelle que dans beaucoup de pays, Les accouchements se font dans des très très grosses maternités. En Angleterre, en Suède, 70% des accouchements se font dans des maternités à plus de 3000 accouchements.
Ce qu'on appelle des usines à bébés.
Voilà. En France, ça n'est pas le cas du tout et c'est pas ce que nous souhaitons. Nous sommes à 20% des accouchements dans ces grands centres et ça n'est pas ce que nous souhaitons. Mais aujourd'hui, nous savons que dans des toutes petites maternités, nous n'avons plus les professionnels pour assurer la sécurité des soins pour les femmes. Et je ne voudrais pas qu'une femme ou un enfant meure parce qu'il y a un médecin soit qui n'a pas pris la liste de garde, soit qui est intérimaire et qui ne connaît pas forcément les recommandations.
On a des questions déjà nombreuses au standard sur le numerus clausus. On va y revenir avec vous donc et les auditeurs dans quelques instants. Quelques autres questions d'actualité, Agnès Buzyn. Les théories du complot séduisent toujours plus de Français. L'IFOP a testé la semaine dernière plusieurs infox et celle qui remporte la palme, si j'ose dire, c'est la suivante, je la cite, le ministère de la Santé et l'industrie pharmaceutique sont de mèche pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Fin de citation. 43% des sondés sont d'accord, près d'un Français sur deux donc. Est-ce que vous n'avez pas raté quelque chose dans la pédagogie de ce qu'est la vaccination, Agnès Buzyn? Excusez-moi, je vous pose la question simplement.
D'abord, je pense que le pauvre pasteur doit se retourner dans sa tombe. Je pense que il a sauvé des millions, des centaines de millions de vies avec le concept de vaccination. L'histoire de la vaccination, c'est pas, elle n'a pas commencé il y a deux ans ou il y a un an.
Non, mais est-ce que vous êtes accablé quand vous lisez ça?
Oui, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent parce que tous les experts internationaux, il n'y a pas que le ministère de la Santé, le monde entier, l'Organisation Mondiale de la Santé, alors est aussi de mèche avec les labos. L'Organisation Mondiale de la Santé vise 95% de couverture vaccinale pour tous les vaccins infantiles. En fait, on veut sauver des vies. On veut juste sauver des vies.
Le problème, c'est le message qui ne passe pas ou c'est les gens qui ne comprennent pas. Qu'un Français sur deux n'est pas...
Les Français voient le mal partout. L'industrie pharmaceutique gagne en fait assez peu d'argent avec les vaccins. Elle en gagne beaucoup plus avec les autres médicaments. Et quelque part, quand on ne vaccine pas quelqu'un et qu'il est hospitalisé, il coûte 10, 20, 100, 1000 fois plus cher à la sécurité sociale que quand il est vacciné. Une grippe qui est en réanimation avec des antibiotiques pendant 3 semaines et de la réanimation lourde va coûter 1000 fois plus cher que le vaccin anti-grippe. Donc, je ne comprends même pas ce raisonnement. C'est-à-dire que il suffit de réfléchir 2 secondes pour comprendre que, en fait, l'industrie pharmaceutique n'a pas beaucoup d'intérêt dans les vaccins.
Alors, vous parlez...
C'est le système de santé qui a un intérêt à faire de la prévention.
Vous parlez de la grippe, justement. Le pic épidémique de la grippe est atteint en ce moment. La grippe a déjà tué 1100 personnes. Pourquoi est-ce que le vaccin est moins efficace cette année?
Alors, en fait, l'efficacité du vaccin antigrippal dépend des mutations du virus de la grippe chaque année. Chaque année, quand on fabrique le vaccin antigrippe, on fait des prévisions sur les mutations. Parfois, les prévisions s'avèrent très justes. Parfois, elles sont modérément juste. Et puis parfois, le virus qui circule n'est pas forcément le virus qu'on a anticipé. Il y a parfois 2 virus qui vont circuler successivement. Et c'est le cas, par exemple, ces 2 dernières années, il y a eu 2 souches virales différentes, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'était moins fréquent. Et donc, de temps en temps, le vaccin est très efficace, de temps en temps moins efficace. Et puis,
ça dépend
aussi...
Il faut continuer à se faire vacciner pour la grippe ?
Non, il faut toujours se faire vacciner parce que ça protège quand même 50% de la population. Et puis après, il y a des variations individuelle. C'est-à-dire que génétiquement, on peut très bien répondre à un type de vaccin et pas à d'autres. Et donc, d'une année sur l'autre, l'efficacité peut varier. Pour autant, cela protège la population générale, le fait de se faire vacciner.
La grippe tue en général 10 000 personnes par an en France. Est-ce que avec ce vaccin moyennement efficace, vous craignez une surmortalité ?
Comme chaque année, malheureusement, je crains une surmortalité. C'est la raison pour laquelle je rappelle les gestes de bon sens, se laver les mains régulièrement, tousser dans sa manche, utiliser des mouchoirs jetables, éviter d'aller voir des personnes fragiles quand on est soi-même malade. Voilà, c'est vraiment du bon sens. Par ailleurs, je rappelle que le niveau de vaccination a un peu augmenté cette année. Je souhaite qu'il augmente encore parce que même quand les vaccins sont modérément efficaces, ils protègent quand même globalement.
Madame la ministre, la station de ski de Val Thorens est touchée par une épidémie de rougeole alors que les vacances scolaires commencent à peine. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous toussez bien dans votre manche, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de cas, que faut-il faire et comment être sûr que l'épidémie va être circonscrit, circoncis?
Alors, d'abord, l'ARS, l'Agence régionale de santé a pris des mesures pour trouver toutes les personnes contacts. À ma connaissance, le dernier chiffre que j'ai, c'est 24 personnes atteintes. C'est toutes des personnes jeunes, non vaccinées, qui sont nées après les années 80, donc qui n'ont pas été en contact avec le virus avant. Et donc, nous rappelons pour les personnes qui habitent la région qu'il faut se faire vacciner contre la rougeole quand on est né après 1980 et qu'on n'a pas été vacciné contre la rougeole dans le carnet de santé. Donc tous les jeunes aujourd'hui doivent se faire vacciner contre la rougeole lorsqu'ils habitent la région.
Autre question avant de donner la parole aux auditeurs. Après l'enquête dite implant files, des implants mammaires texturés ont été mis en cause dans le développement de certains cancers. Élodie Guéguin nous disait la semaine dernière qu'un certain nombre de femmes avaient porté plainte. Est-ce que ces prothèses vont être interdites? On attend une décision imminente. Est-ce que vous pouvez nous la donner?
Aujourd'hui, nous attendons la décision des experts de l'Agence de sécurité du médicament. Il y a eu un grand débat avec les parties prenantes, les professionnels de santé qui s'est tenu il y a peu de temps au sujet de ces implants. Les recommandations aujourd'hui de l'agence sont d'éviter des implants texturé de la marque Allergan. Ces recommandations courent toujours et pour l'instant, il n'y a pas encore de décision de police sanitaire.
Mais vous y êtes favorable, vous, à l'interdiction?
Sincèrement, moi, je dépends des experts scientifiques. Si eux pensent qu'il y a un lien, évidemment, il faut interdire ces implants. Mais voilà, la ministre que je suis attend les résultats des experts.
On est au standard, donc, avec David. Bienvenue, David.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, David.
Vous avez...
On vous écoute plus du coup. Enfin, on vous attend plus. Est-ce que vous pouvez ne pas bouger ou revenir dans une zone de couverture, David? Alors, on va passer à Géraldine et essayer de joindre à nouveau David. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Vous avez la parole.
Merci. Donc bonjour, je suis Géraldine, infirmière exerçant dans un grand centre hospitalier psychiatrique à Paris. Donc Madame Buzyn, ça fait des mois que les collectifs nationaux comme Pinel, Blouse Noire, PPU, Printemps de la Psy, UNAFAM, UMAPSY défendent et alertent pour une psychiatrie plus humaine et plus digne à l'intérieur et en dehors des murs. Vos réponses, Madame Buzyn, des promesses budgétaires qui sont en fait des rustines face à la réalité de la psychiatrie en France. Donc déjà, écoutez-nous un petit peu et venez passer ne serait-ce qu'une semaine dans nos services et pas dans les centres de recherche experts ou de neurosciences, parce que maintenant c'est comme ça qu'on les appelle et qui sont des vitrines en fait d'une psychiatrie complètement déconnectée. Et surtout, écouter les patients et le personnel.
Merci Géraldine pour cette question. Agnès Buzyn vous répond.
D'abord, j'aimerais qu'on remarque que je suis la première ministre à dire que la psychiatrie est un problème dans notre pays, qu'elle a été abandonnée et que j'ai pris le sujet à bras-le-corps dès mon arrivée, que j'ai annoncé 50 millions d'euros l'année dernière débloqués pour venir en aide aux hôpitaux les plus en difficulté. J'ai annoncé que ces 50 millions d'euros seraient renouvelés chaque année, que j'ai rajouté 40 millions d'euros. Ça sera près de 100 millions d'euros qui vont être débloqués pour la psychiatrie française en 2019. Donc, évidemment, ces budgets vont continuer. Je cherche à moderniser la psychiatrie française. Elle est rester, si je puis dire, en l'état depuis 30 ans dans beaucoup de centres. Il faut à la fois des investissements dans les hôpitaux, il faut aussi raviver la flamme de la pédopsychiatrie. Nous n'avons plus de pédopsychiatres en France, cette discipline a été abandonnée. J'ai créé 10 postes de jeunes médecins l'année dernière, 10 de nouveau pour former des jeunes pédopsychiatres. Je recrée une filière, si vous voulez, de professionnels de pédopsychiatrie pour mailler le territoire. J'ai annoncé des grands programmes de recherche en psychiatrie. Et puis, évidemment, il faut que les psychiatres se mettent d'accord pour harmoniser leurs recommandations. Il y a encore dans trop d'hôpitaux des dérives de pratiques avec des pratiques d'un autre temps et je souhaiterais que cela se modernise.
David, on a retrouvé David. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Allez, on vous écoute.
Bonjour, Madame la Ministre.
Bonjour,
merci,
monsieur.
Merci à France Inter de me donner la parole. Madame, je suis David Vendée, représentant du personnel CGT. Nos collègues des urgences au centre hospitalier de Saint-Malo sont en grève depuis 4 semaines, tout simplement pour réclamer des effectifs, pour prendre en charge les patients de façon digne, puisqu'on a donné plusieurs exemples de patients, des personnes de 80 ans, 90 ans, qui passent des heures sur des brancards, 15 heures, 20 heures sur des brancards, Voilà, j'ai écouté attentivement vos interventions. J'entends votre plan santé avec la création de maisons médicales pour demain. Moi, je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux et à l'hôpital.
Ah bah voilà, on a été coupé, mais on a une idée, David, de ce que vous vouliez demander à Agnès Buzyn, qui va vous répondre.
Oui, bah c'est exactement pour ça que je fais une loi de transformation du système de santé. C'est parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'hôpital est le réceptacle de plein de dysfonctionnements, notamment d'une difficulté d'accéder à des médecins en ville, à des professionnels de santé en ville. Donc, l'idée de la loi, c'est de redonner du temps aux médecins, de faire par tous les professionnels ce que les médecins n'ont pas forcément besoin de faire. Je pense par exemple à la vaccination en pharmacie, je pense à plein d'autres actes qui peuvent être délégués à des infirmières. Je crée les infirmières de pratique avancée pour le suivi des malades chroniques. Et l'idée, c'est justement de désengorger les urgences qui aujourd'hui, en fait, sont le réceptacle de tout cela. Donc, cette loi, elle répond exactement à ce que dit monsieur, c'est-à-dire redonner du souffle et des moyens à l'hôpital pour qu'il puisse enfin fonctionner normalement en recréant une médecine de proximité et l'accès aux soins de proximité.
Alors, il y a beaucoup de questions sur les urgences. Je donne la parole à Guillaume. Bonjour et bienvenue, Guillaume.
Bonjour Nicolas, bonjour.
Expliquez-nous qui vous êtes, parce que je crois que vous y travaillez aux urgences.
Alors moi je suis chef de service dans un hôpital de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. J'ai cet honneur de travailler dans cette institution. Je voudrais simplement rappeler à Madame la Ministre qu'il n'ignore pas qu'il y a eu au moins 3 morts dans les services d'urgence ces dernières semaines. Larry Boisière, un patient oublié en novembre. Mantes-la-Jolie, il y a quelques semaines, un malade qui a été retrouvé mort à l'arrière des urgences. À l'hôpital Henri Mondor à Créteil, un monsieur intoxiqué qui a échappé à la surveillance, qui s'est suicidé 100 mètres plus loin. Et donc, au-delà de cette résignation sur l'idée que les services d'urgence fonctionnent mal depuis maintenant très longtemps, les choses se sont très clairement aggravées, hein, les flux épidémiologiques le montrent. Qu'est-ce que propose Madame Buzyn, non pas dans les années qui viennent, mais dans les jours, les semaines qui viennent, pour venir en aide à ces personnels, à ces médecins, qui sont vraiment à bout de force, malgré leur détermination auprès des patients. Des patients sont oubliés tous les jours dans les services d'urgence. On rattrape des catastrophes par les cheveux, hein, vraiment tous les jours. Et quand j'entends les grands discours sur les projets, les mois et les années qui viennent, écoutez, je suis vraiment déçu. Et faut-il se résigner à être mal soigné aujourd'hui aux urgences? Est-ce que Madame Buzyn peut dire ça devant la population française, ses millions d'auditeurs ce matin? Faut-il accepter ces conditions de prise en charge aux urgences des hôpitaux français, notamment à la PHP, malgré la détermination des soignants?
Vous juste une précision, Guillaume, vous évitez des catastrophes, dites-vous, en substance, tous les jours?
Absolument tous les jours, mais Madame Buzyn le sait parfaitement. Dans tous les services d'urgence, tous les jours, c'est des dizaines de malades qui attendent des lits, qui attendent simplement de voir un médecin, qui attendent une prise de sang, une radio. Et par exemple, dans l'hôpital dont je tairai le nom dans lequel je travaille, qui peut accueillir à peu près 16 patients tous les jours, on est à plus de 40 ou 50 chez des patients qui attendent un lit plus de 10 heures aux urgences.
Alors, je vais peut-être répondre à...
Un scandale, dites-vous, Guillaume. On a bien compris. Merci pour votre intervention. Agnès Buzyn
donc,
vous répond.
Monsieur est chef de service, donc on est collègue de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, quelque part. Je dois dire que je connais la situation, elle s'est envenimée puisque le nombre de passages aux urgences augmente chaque année. Il y a d'abord des problèmes de locaux. Il faut qu'on agrandisse beaucoup de services d'urgence aujourd'hui qui sont pas dimensionnés. C'est ce qui explique que des patients attendent avec les familles de malades. Ça peut expliquer que certains soient oubliés parce qu'il y a trop de monde. Et donc ça nécessite des travaux. Et ça, tous les hôpitaux aujourd'hui ne peuvent pas les faire. Par ailleurs, justement à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, j'ai visité des services d'urgence et j'ai appris par exemple que des patients chroniques suivis dans l'hôpital pour des maladies très graves, des transplantations.
Il parle pas de ça, hein, là, Guillaume.
Non, mais si,
il parle pas de ça.
Si,
hein.
Mais écoutez bien.
Il dit, voilà, aujourd'hui, hier, demain, qu'est-ce qu'on fait?
Écoutez-moi, monsieur Demorand. J'ai appris que dans certains services, alors qu'il y a des médecins de garde présents, par exemple, en transplantation dans certains services de l'hôpital, des hôpitaux publics de Paris, on fait passer les malades par les urgences plutôt que de les reprendre directement dans les services. Il y a des problèmes d'organisation interne dans les hôpitaux. Ça n'est pas normal. Moi, dans mon service, quand j'étais médecin, médecin, j'avais interdit à mes malades de passer par les urgences. Quand ils avaient un problème aigu, je les reprenais directement dans le service. Je ne faisais pas attendre. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'urgentiste.
C'est la faute des organisations
parfois
c'est la faute des médecins, des
hôpitaux. Non, pas des médecins. Les médecins, franchement,
ou est-ce que c'était
gèrent,
un problème de moyens si quelqu'un attend 10 heures pour avoir un lit?
Il y a des problèmes, non pas de moyens, on manque d'urgentistes. Quand on veut recruter des urgentistes aujourd'hui en France, nous n'en avons pas formé assez. Donc moi, je veux bien, c'est pas un problème de poste, je veux bien ouvrir des postes. Le problème, c'est qu'il y aura personne pour les prendre. Donc nous formons une nouvelle génération d'internes.
Il n'y a pas d'urgentistes là.
Non, et
vous créez les postes, il n'y a personne, il reste vide.
Absolument. Et aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui ne trouvent pas des urgentistes. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire fonctionner certaines urgences, notamment dans la ruralité. Nous avons créé une discipline de médecine d'urgence. Les internes sont en train d'être formés. Ils vont sortir. Donc, voilà, il n'y a pas un problème uniquement de moyens d'urgentistes. Et puis, par ailleurs, il y a des problèmes d'organisation interne dans certains hôpitaux. Et nous devons mettre des moyens dans les locaux parce qu'effectivement, les locaux sont souvent beaucoup trop vétuste.
Merci Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, d'avoir été au micro de France Inter ce matin. On avait encore énormément de questions.
Peut-être juste le numerus clausus.
Allez, encore un mot.
Allez, on abuse
encore un
le
mot,
temps.
On abuse.
Mais comme c'est le cœur de votre réforme, cette année, pour 57 000 étudiants en première année, il y en a 8 000 qui passaient en seconde année. Avec la fin du numerus clausus à la prochaine rentrée, combien vont passer en seconde année?
Ça ne sera pas la prochaine rentrée, mais celle d'après. Nous allons augmenter de 20% à peu près le nombre de médecins formés. Parce qu'il faut aussi pouvoir les accueillir et les former, et nous ne pouvons pas monter drastiquement en puissance d'une année en une année. Mais il faut savoir que le numerus clausus a déjà été largement augmenté depuis 2005, et que donc de jeunes médecins formés en grand nombre vont arriver sur le marché, si je puis dire, et vont être opérationnels dans les 5 ans qui viennent.